Accent d'Europe, Catherine Roland.
Bonjour et bienvenue dans Accent. Et nous partons tout de suite au Maroc, où les enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla font toujours figure de porte d'entrée vers l'Eldorado européen pour des centaines de milliers de clandestins. Régulièrement, les migrants subsahariens se heurtent aux grilles du territoire. Le Maroc et l'Espagne en appellent tout aussi régulièrement à l'Union européenne pour les aider à réguler cette immigration clandestine. Notre correspondant au Maroc est allé à la rencontre de ces aventuriers qui ont tenté leur chance et qui ont échoué. Il leur a notamment demandé de leur parler de leur rêve d'Europe, Léonard Vincent.
Mokhtar, ici, c'est un endroit où vous venez souvent?
Quand je me réveille le matin, je viens ici, je me connecte, quoi. Et on prend des informations, qu'est-ce qui se passe en Europe à propos de l'immigration.
Des tabourets en plastique, quelques ordinateurs, une petite pièce étouffante à l'étage d'un taudis dans le quartier de Takadoum, à Rabat. C'est ici que se retrouvent ces trois garçons guinéens qui, coûte que coûte, ont déjà tenté le passage vers l'Europe.
Moi, mon prénom, c'est Ibrahima. J'ai 20 ans.
Vous avez tenté plusieurs fois de passer à Melilla?
Ouais, j'ai tenté deux fois. À chaque fois, c'est l'échec. Bon, une fois entré à Melilla, j'aimerais être en France pour me perfectionner. J'aimerais être un grand sociologue. C'est mon idée.
Mon prénom, c'est Tierno Mahmoudou. Je viens de la Guinée. J'ai 15 ans. À mon idée, je veux rentrer pour faire le football, pour fonder mon avenir, pour aider mes parents. C'est pour cela que je vais aller en Europe. Mon père ne voulait pas que je vienne. Je me suis caché de mon père pour venir.
Mokhtar, 19 ans ou à peu près, lui, est fatigué. Il veut rentrer chez lui.
J'ai renoncé parce qu'il y a la pression dans la famille, quoi. Beaucoup me disent pourquoi je suis là. Je ne fais rien, même pour manger, c'est des problèmes, quoi. C'est pour cela que j'ai renoncé. Je ne peux pas rester durant toute ma vie pour partir en Europe, quoi.
Tous les trois se moquent avec une drôle de philosophie de la violence qu'ils ont rencontrée au grillage de Melilla, l'enclave espagnole où ils ont tenté d'entrer en force.
Je vais aller là où je pourrais pratiquer le football, peu importe le pays. Si ça ne marche pas, je vais aussi trouver une autre solution encore.
Mais tu veux rester là-bas pour travailler?
Oui, quand même, je veux rentrer en Afrique avec quelque chose.
Comme je me suis déjà engagé, j'aimerais assumer mon engagement. La chance vient aussi au bout de l'effort. Comme tu n'as pas les moyens de partir légalement, tu fournis ton effort et Dieu vient t'assister.
Et si vous aviez le président François Hollande devant vous, là, qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire?
Ah bon, j'allais dire simplement d'instaurer une politique pour favoriser les immigrants. En fermant les frontières, c'est ce qui nous pousse à risquer.
Non, le Maroc, c'est pas bon pour nous les immigrants. Je vais garder un souvenir de l'Europe, là. Je suis allé jusqu'au grillage, là, j'ai toussé, j'ai pas y rentré. Je vais retourner au pays, faire business quelques années, là, je vais payer un visa. Même si c'est 7000 euros, 8000 euros, je vais le faire, quoi.
Dans l'atmosphère feutrée des bureaux de l'Union européenne au Maroc, on est conscient que la politique uniquement sécuritaire est une impasse. Cécile Abadi, chef de la section politique de la délégation européenne à Rabat.
Je pense que l'affirmation que l'approche sécuritaire ne suffit pas est un constat partagé par tous, y inclus par le Maroc, par les États membres, par vraiment l'ensemble des acteurs. Je crois que le Maroc, avec sa politique de régularisation, fait déjà un effort vers un travail plus institutionnel. Le Maroc est en train de modifier sa législation sur la traite et sur l'asile. Nous travaillons aussi sur la question des trafics. Nous pensons qu'il faut également travailler sur différents aspects complémentaires. Nous travaillons aussi sur les retours volontaires. Nous travaillons sur l'appui législatif. Nous travaillons avec la société civile pour l'appui aux personnes en situation vulnérable. Et l'Union européenne est aussi très engagée dans le développement socio-économique des pays d'origine de la plupart des migrants irréguliers. Ce qui est clair, c'est que nous pensons qu'une des manières de réduire l'immigration clandestine, c'est d'augmenter la part de la migration légale. L'Union européenne a aussi des défis démographiques et donc, sur le plan de sa vision, elle n'est pas une Europe forteresse comme on a tendance à le décrire parfois.
On estime à environ 25 000 le nombre de migrants subsahariens présents au Maroc. 25 000 histoires individuelles qui butent sur un problème politique très complexe.
Et C'est le portrait d'un inconnu qui a réussi, lui, à émigrer en Europe, un invisible des campagnes italiennes. Ce Ghanéen de 40 ans vit perdu au milieu des champs du sud de l'Italie, dans l'attente de la saison des tomates, récolte qui va bientôt commencer. Comme Prince Bonnie, ils sont des milliers d'Africains sans papier, exploités dans les champs européens. Un travail harassant qui leur permet d'envoyer un peu d'argent à leur famille. Ils voudraient pouvoir voyager, travailler librement, mais ils ignorent qu'ils sont le maillon d'une chaîne infernale, celle de la filière de la tomate italienne qui fait des profits gigantesques en vendant du concentré de tomates en Afrique. Portrait de Prince Bonnie, l'un de ces migrants pris au piège de la mondialisation, Mathilde Auvillain.
Prince Bonnie a les mains calleuses et usées de ceux qui travaillent la terre. La peau noire de son visage est burinée de rides profondes, mais son visage s'éclaire parfois d'un sourire enfantin. Il raconte qu'au pays, on le surnommait Kofi America parce qu'il avait toujours voulu partir à l'aventure. Au Ghana, il était agriculteur à Navrongo. Il travaillait dans les champs pour la culture des tomates. Aujourd'hui, une dizaine d'années plus tard, le voici dans les champs en Italie, à attendre avec impatience la saison de récolte des tomates. Au pays de l'or rouge, dans les Pouilles, la récolte pour les migrants africains, c'est la possibilité de gagner un peu d'argent. Mais à quel prix ? Ils sont exploités, sans papier, vulnérables, corvéables à merci. Le fruit de leur labeur, ils l'envoient à leur famille. Ses deux filles, son père et ses cousins, utilisent l'argent de Prince Bonnie pour s'acheter à manger. Du riz, importé des États-Unis, des sardines venues du Portugal, de la sauce tomate venue d'Italie. Car toute l'Afrique occidentale importe du concentré de tomates italien et au Ghana, ces importations massives ont eu raison de l'agriculture locale. À Navrongo, au nord du pays, la culture de la tomate était autrefois une mine d'or, mais au début des années 2000, faute de marché pour le produit de leurs terres, étranglés par les dettes, certains compagnons d'infortune de Prince Bonnie ont mis fin à leur jour. D'autres ont décidé de partir, comme lui. Prince Bonnie a traversé le désert et la mer à ses risques et périls, sans savoir qu'il se retrouverait pris au piège en Europe, à alimenter le cercle vicieux dont il est prisonnier.
Et l'histoire de Prince Bonnie, vous pouvez la retrouver dans le web documentaire The Dark Side of Italian Tomato, réalisé par Mathilde Auvillain et Stefano Liberti, un web doc publié en français sur le site de RFI. Et oui, qui est-ce qui va chauffer le sauna? C'est très important comme question, car rien de plus finlandais que le sauna, le seul mot finnois qui a d'ailleurs fait le tour du monde. Il est tellement ancré dans les traditions que les Finlandais pensent qu'il n'y a pas moyen de les comprendre si on n'a pas passé quelques heures dans cette étuve en bois chauffée aux pierres brûlantes. Il existe 2 millions de saunas dans le pays et bien plus à l'étranger, car le sauna s'exporte partout. Pauline Curtet.
Ce que vous venez d'entendre, c'est de l'eau qui vient d'asperger les pierres brûlantes posées sur le poêle d'un sauna traditionnel appartenant à la société finlandaise de sauna d'Helsinki. Et la vapeur s'élève des pierres. Les Finlandais appellent ce phénomène l'œhulu. Nus, ils se laissent envelopper par cette chaleur, située entre 70 degrés pour les saunas les plus froids et 110 à 120 degrés pour les plus chauds. Ils ne bougent pas et parlent très peu. Ici, on se relaxe et on oublie tous ses soucis. Après 10 ou 15 minutes passées dans les tuves, on peut sortir pour profiter de la fraîcheur en sirotant une boisson ou aller nager dans le lac juste à côté. L'hiver, un trou creusé dans la glace, appelé avanto, invite les courageux à venir faire quelques longueurs. Jarmo Lehtola est membre de la société finlandaise de sauna, qui milite pour la protection des traditions autour du sauna finlandais. Il raconte son amour pour cette pièce singulière.
Je vais au sauna 3 fois par semaine, toujours dans des saunas de bonne qualité. Pour moi, c'est un lieu de méditation très chaud, où l'on n'a pas besoin de parler, ni d'utiliser son téléphone ou son ordinateur. Ce n'est pas qu'un lieu, c'est un état d'esprit. Je ne peux pas imaginer une vie sans sauna. Si un jour je vais vivre à l'étranger, la première chose que je ferai sera d'en construire un.
Il est difficile de dater la naissance du sauna en Finlande. On sait que les premiers habitants de la région, voilà plusieurs milliers d'années, creusaient déjà des trous dans le sol et y jetaient des pierres pour les chauffer. Pendant des siècles, le sauna a constitué le lieu central de la vie finlandaise. Les femmes y accouchaient parce que la pièce était souvent la plus propre de la maison. Les futurs mariés venaient s'y purifier la nuit avant leurs noces et les morts y étaient embaumés. À cette époque, le jour de sauna était fixé le samedi. Ainsi, après leur semaine de travail, les fermiers se réunissaient dans le sauna du village pour relaxer leurs muscles fatigués. Aujourd'hui, l'usage du sauna est évidemment moins codifié. Chaque maison ou presque en possède un, au point qu'un dicton affirme qu'il y a plus de sauna que de voitures en Finlande. Le sauna électrique, plus facile à chauffer qu'un sauna à bois, a fait son apparition. Cependant, malgré ces changements, 99% des Finlandais admettent se rendre au moins une fois par semaine dans cette pièce. Et cette dernière reste souvent associée à de très bons moments. Katarina Sturman, une jeune adepte, les décrit avec le sourire.
I've probably been like an infant.
La première fois que je suis allée au sauna, je ne m'en souviens pas, j'étais trop jeune. J'avais quelques semaines à peine. J'ai des photos pour le prouver. Quand j'étais petite, on passait l'été en famille dans la maison de ma grand-mère au bord d'un lac. On allumait le sauna le matin, on y allait, puis on allait nager avant d'y retourner. Entre-temps, on mangeait, on jouait. C'est sûrement un de mes meilleurs souvenirs d'enfance.
In and out from sauna.
Dans les années 70, le sauna a souvent été associé en Europe et en Amérique du Nord à des lieux discrets de rencontres sexuelles. Pour les Finlandais, c'est une hérésie. Ils se rendent nus au sauna, mais pour eux, cela n'a rien de sexuel. Aussi, lorsque des étrangers viennent découvrir cette activité en terre nordique, ils comprennent vite qu'il s'agit d'une activité rituelle, avec des règles à suivre. Katriina Sivonen est ethnologue au sein de l'Université d'Helsinki.
Il ne faut pas faire du bruit. Et puis, il faut toujours fermer la porte. Si on voit quelqu'un qui vient pour la sauna, on doit quand même fermer la porte. C'est plus poli. Et je pense aussi que c'est poli de demander si on peut jeter de l'eau.
Encore aujourd'hui, beaucoup de Finlandais assurent que le sauna est, je cite, « la pharmacie du pauvre ». On pourrait tout y soigner, ou presque. Malheureusement, des études ont prouvé que ce n'était pas le cas, comme le rappelle le professeur en médecine Lasse Viinikka de l'Université d'Helsinki.
Le sauna n'a pas vraiment de bénéfice pour la santé, c'est juste relaxant. Il peut calmer certains symptômes, mais sur une très courte période. Mais il n'est pas dangereux, il a le même effet sur la circulation sanguine qu'une marche rapide. La situation est différente lorsque l'on se jette dans un trou d'eau glacée, car le risque est plus important pour le cœur. Il vaut mieux consulter un médecin avant de tenter l'expérience, mais allez voir un médecin finlandais, car les médecins étrangers sont trop craintifs.
Voilà donc les curieux avertis. Et les touristes l'auront bien compris, s'ils veulent visiter la Finlande et comprendre l'état d'esprit finlandais, le passage par le sauna est quasi obligatoire.
Et pour terminer, de la musique en boîte à comprendre au premier degré. Allez donc dans les Silent Disco de Londres pour le comprendre exactement. Vous verrez de drôles de clubbers se tortiller sur une musique inaudible. Normal, chacun écoute les tubes de son choix au casque. Marie Billon est allée tester pour nous.
C'est la discothèque la plus silencieuse du monde. Enfin, presque, il n'y a pas de musique, mais des centaines de gens qui dansent. Et comme ils ne dansent pas tous au même rythme, ça ressemble à un joyeux bazar. Les clubbers se déhanchent au rythme de leur choix. Un jeune homme croit draguer au rythme de la house qui passe dans ses oreilles, mais la fille qu'il courtise écoute de la techno dans son casque. Pas évident de danser sur le même rythme, donc. Au bout d'un moment, l'un d'eux enlève le casque et demande, en oubliant qu'il n'a pas besoin de crier, « Tu écoutes quoi ?» Selon la réponse, le couple se formera ou s'éloignera chacun de son côté. Les Silent Disco créent parfois ce genre de bonnes ou mauvaises surprises, mais elles permettent au groupe d'amis d'aller danser ensemble même quand les goûts musicaux divergent. Et puis surtout, ça permet d'aimer la musique des années 80 sans honte, par exemple, sans être taxé de ringardisme. On danse dessus et personne ne le sait. Des Silent Disco, il y en a un peu partout dans Londres, en haut du gratte-ciel The Shard, ou dans les sous-sols de la London Bridge Experience, sorte de maison hantée. D'ailleurs, l'endroit a décidé de faire un petit mélange des genres, puisque les clubbers sont vraiment dans leur bulle, n'entendent rien de ce qui se passe autour d'eux, et généralement ferment les yeux pour ne pas avoir la tête qui tourne en voyant tous ces gens danser sur des rythmes différents. Pourquoi ne pas rajouter quelques zombies dans l'équation ? La surprise n'en sera que plus grande quand la créature sautera sur les clubbers. Les zombies sont un ajout occasionnel, il n'y en a pas à chaque Silent Disco, mais le concept se développe. Pour nombre de noctambules, par contre, les Silent Disco ne pourront jamais remplacer les bonnes vieilles boîtes de nuit assourdissantes, tout simplement parce qu'elles conservent la convivialité.
Gardez vos yeux fermés et écoutez.
Et on se quitte, c'est une habitude maintenant, avec le choix musical très pointu de Vincent Théval.
Paru à l'automne dernier, le cinquième album de Teitur, Story Music, est probablement le meilleur de ce musicien originaire des îles Féroé. C'est là qu'il a enregistré ses nouvelles chansons dans des nouveaux studios, récemment construits là où se trouvait auparavant une usine à glace. Et pourtant, ce nouveau disque est sensiblement plus chaleureux que les précédents. Il a été enregistré avec une soixantaine de musiciens qui sont pour l'essentiel des habitants des îles Féroé, âgés de 9 à 86 ans. Et pour en parfaire les arrangements, Teitur a fait appel à deux compositeurs et arrangeurs géniaux, le jeune prodige new-yorkais Nico Melli et le légendaire Van Dyke Parks, qui a travaillé avec les Beach Boys. Le résultat est magnifique.
The Samsung, he's got the Nokia. He's got the Rolex, he's got the ganja. No one knows exactly what is going on with Antonio and his mobile phone.
Accent d'Europe, c'est déjà fini, mais vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook et sur le site RFI.fr. Merci de nous avoir suivis, merci à Françoise Grelot pour la réalisation. Restez à l'écoute dans quelques instants, les infos.